Jean-Louis, n'était pas vrai que ta mère non maternelle, Monette, avait un préféré parmi mes enfants.
Oui.
C'est vrai?
Tout à fait.
Alors, on a, attends, c'était pour démarrer, et on avait, on a toujours, on va dire, un ami à Argentan qui a le même préféré. Et c'était un peu gênant, hein, parce que des fois, cette personne emmenait un cadeau pour un enfant, mais pas un cadeau partageable. Pas comme un bar de chocolat qu'on pouvait couper en quatre morceaux et donner une égalité à tous. Et donc, il fallait qu'on travaille avec la personne et avec nos enfants. Alors, avec la personne, on n'a pas réussi. La personne a toujours le même préféré. Mais on a dû expliquer aux enfants qu'on peut pas, hein, on peut pas forcer les gens à apporter quatre cadeaux et on peut pas empêcher la personne d'apporter un cadeau. Donc des fois c'est comme ça et donc il faut pas en vouloir ni à l'autre enfant ni à la personne. Hein? Pourtant c'est pas une bonne chose, hein, d'avoir des favoritismes comme ça. Donc, on peut commencer aujourd'hui en Jacques chapitre 2. On a déjà fait l'étude à travers tous les versets dans l'épître de Jacques. Jacques, c'est juste un tout petit peu avant l'Apocalypse. Chapitre 2 et verset 1. Jacques chapitre 2 et verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Donc là, c'est dans le sens général, mais aussi dans le sens particulier. Donc, il va donner le sens aussi économique. Hein? Quand il y a des gens riches, on veut plutôt être leur ami que les gens pauvres. Hein? Parce que les riches, ils peuvent nous donner quelque chose, tandis que les pauvres vont vouloir quelque chose. Donc, il dit, il ne faut pas avoir le favoritisme. Et je voudrais appliquer ce principe aujourd'hui à la famille. Que notre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme, même au sein de notre famille. Donc regardez dans Genèse, Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25 et verset 27. Genèse chapitre 25 et verset 27. Ses enfants grandirent, donc c'est Esaü et Jacob, ils sont des jumeaux. Ses enfants grandirent, Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Donc tous les deux avaient le préféré. Tous les deux avaient le chouchou. Et ça va causer des problèmes. Alors, il est vrai qu'il y a un problème de cadet. Cadet ou cadette? Cadet. Mon père était le jumeau aîné. Et son frère était le cadet. Et toujours, bon, mon père ne peut rien faire, c'est le premier-né. C'est pas son faute, c'est comme ça. Mais son frère n'a jamais pardonné cette injustice. Et donc, il est drôle, mais chez mon père aux États-Unis, il y a un fusil. Un de ces jours, vous quatre, vous allez couper cette fusil en quatre morceaux. Et c'est le fusil qu'ils ont acheté ensemble. Mais et c'était toujours un bagarre qui a le droit à posséder. Il ne faut pas que les enfants achètent des choses en commun, parce que par la suite, c'est le bazar. Hein? Donc, jusqu'à ce jour, ce fusil reste chez nous. Mais le frère voudrait ce fusil, parce que, bon, évidemment, ils ont payé 5 ans, un seul pour le posséder, Mais ce qui est vraiment l'enjeu, c'est qu'il n'a jamais pardonné d'être né en seconde. Vous voyez? Et donc là, on a ces deux-là. Et quelque part, les parents ont arrangé ça. Papa a pris un et maman a pris l'autre. Et donné leur amour, l'un à leur préféré et l'autre à leur préféré. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne la jalousie. Vous voyez? Donc, c'est la base de beaucoup de problèmes. Avant d'aller plus loin, je vais dire que, vous savez, dans la vie, chacun est responsable. Il ne faut pas se déresponsabiliser. Hein, comme M. Dallaire dit souvent, il parle des mobilettes, et comme le gouvernement les a déresponsabilisés, ils ne vont pas respecter les stops ou les feux, rien du tout, vous avez un accident et c'est votre faute. Parce que ça ne peut pas être la faute de la mobilette. Vous voyez? Déresponsabilisé. Non. Chacun est responsable de sa personne. Il est responsable de ses actes. Il est responsable de ses paroles. On n'est jamais forcé de faire quoi que ce soit ou de dire quoi que ce soit. Quand vous mentez, c'est vous qui mentez. Ce n'est pas parce que mon frère ou ma soeur m'a obligé de le faire. C'est vrai que j'aurais le déplaisir, de mon frère ou de ma soeur si je dis la vérité et qu'eux ils seront punis. Hein? Donc je ne veux pas qu'ils soient fâchés avec moi, donc je vais mentir. C'est ma faute là. J'ai décidé, pour avoir la tranquillité avec mon frère ou ma soeur, eh bien j'ai décidé que moi je vais mentir. Je suis responsable d'avoir donc menti. Vous voyez ce que je veux dire? Il est probable que plusieurs éléments se mélange pour donner naissance à des divers comportements inacceptables, comme le mensonge, n'est-ce pas? Qu'il y a plusieurs choses qui entrent dans le jeu pour encourager ces comportements qui sont inacceptables. Néanmoins, la personne choisit d'agir ou de réagir comme elle l'a fait, hein? Que ce soit un mensonge, un vol, n'importe. C'est donc la personne même qui est responsable et donc qui va porter et peut-être même vivre les conséquences de leur décision à eux. C'est très important de comprendre que chacun est responsable. D'accord? Parce qu'on va parler des péchés des enfants de Jacob. Et on pourrait dire, ah mais c'est la faute de Jacob. Jacob, il a fait des erreurs et par la suite, ses enfants ont suivi son conseil ou son exemple. Ce qui peut être vrai. Mais ses enfants, chacun a choisi de faire comme ça. Donc c'est vrai que les parents peuvent donner de mauvais exemples, mais c'est chaque enfant qui est responsable de sa réaction face à ce mauvais exemple. Ça va tout le monde? Donc voilà, les enfants de Jacob n'étaient pas obligés de commettre leurs péchés. Les péchés qu'ils ont commis. Ils auraient pu agir différemment dans les divers contextes, mais non, ils ont choisi de leur plein gré d'agir mal. Par exemple, Judas a commis l'inceste avec Tamar. Alors, il est, on va dire, il est quand même bien qu'ils n'ont pas avorté l'enfant, comme on fait aujourd'hui. Parce que l'enfant était un ancêtre de Jésus-Christ. Alors, si on avait avorté cet enfant-là, alors il n'y aurait jamais eu de Jésus-Christ. Hein? Donc, Dieu, il peut tourner le mal en bien. Mais Dieu ne veut pas le mal. Vous voyez? Aussi, Ruben a commis l'inceste avec une des femmes de son père. C'était mal. Siméon et Lévi ont commis des meurtres sauvages. Des meurtres. Ils ont massacré les gens. Et par la suite, ils ont pris les gens en esclavage. Ça, c'était suite à Dina qui avait été violée. On peut regarder dans Genèse chapitre 34. Genèse chapitre 34. Et le verset 1. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue par Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Et verset 7. Et les fils de Jacob revinrent des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Donc, globalement, cette histoire, c'est qu'il a vu cette jeune fille, il l'a violée, et par la suite, il voulait marier la fille. Mais les frères, sachant qu'elle avait été violée, donc, ils sont venus, ils ont massacré tous les hommes du village, et ils ont repris leur fille, leur sœur. OK? Donc, il y a plusieurs choses ici. Premièrement, il dit bien dans le texte que Dina, elle est sortie pour voir les filles du pays. Alors, c'était quel pays? C'était le pays de Canaan. Les Cananéens étaient les gens les plus maléfiques du Moyen-Orient. Donc, elle est sortie de son contexte confortable, tranquille, bonne sécurité, et puis elle a dit, bon, je vais voir comment ça se passe chez les autres filles. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va trouver là? Elle ne va pas trouver la tranquillité, le bien et toutes les choses qu'elle a chez elle. Parce qu'elle rejette tout ça pour aller voir ces autres choses. Ces autres choses qui comprennent aussi les sacrifices humains et toutes les choses. Cannibalisme et tout. Okay? Elle est allée voir les filles. Ce n'est pas une bonne idée. Hein? En Jésus-Christ, nous avons toutes les meilleures choses. Alors, si on va se débarrasser de ces bonnes choses pour aller voir comment ça se passe ailleurs, mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut trouver? On ne peut trouver que des choses moins bien ou même les choses néfastes. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé? On ne sait pas. Hein? Mais à la fin, elle était prise et violée. Sauf qu'il parle de quand elle était en Algérie. Et quand elles sont arrivées, elles avaient des mini-jupes. C'était l'époque des mini-jupes. Et puis tous les garçons, alors tout de suite, son père les a emmenés quelque part pour acheter des robes correctes. Parce que, justement, ce n'était pas correct d'être comme ça dans ce pays-là. Hein? Donc, c'était le premier problème, c'est qu'elle est allée voir les filles du pays. Elle voulait être comme les autres filles. Alors, il y avait un autre problème, c'est que Jacob, bon, c'est vrai que Dieu avait dit, vous allez hériter de ce pays, mais Jacob n'était pas obligé de mettre ses tents juste là, à côté de cette ville. Et d'ailleurs, il dit qu'il avait même acheté un terrain dans cette ville-là, avant qu'ils ont massacré tous les gens. D'accord? Donc ça, c'est la faute de Jacob d'avoir s'approché tellement proche à cette ville des gens malveillants. Une autre chose, c'est que Jacob aurait peut-être dû s'occuper de cette question de mariage de sa fille. Ah, vous savez, dans les pays orientaux, ce n'est pas souhaitable d'avoir une fille. Évidemment, il faut avoir une fille pour avoir un mari qui est marié à une fille. Mais, si on a le choix quand même, on ne veut que des garçons. Il avait 12 garçons, une seule fille. Eh bien, il n'a pas chuchoté cette fille. Elle voulait trouver son romance. Elle voulait trouver un homme. Et Jacob aurait dû s'occuper de cette question-là. Il aurait dû marier sa fille correctement. Alors dans l'histoire, dans la Genèse, vous n'allez jamais voir qu'elle a été mariée. Hein, à cause de cet événement, elle n'a jamais été mariée et n'a jamais eu d'enfant. D'accord? Donc ça c'est une faute encore de Jacob. Il aurait dû s'occuper de cette question. On dirait qu'elle n'était pas très haut dans sa liste de priorités. Hein? Et donc, je pense que c'est parce qu'il avait des préférences pour ses garçons. Okay? Moi, j'ai introduit un peu l'idée du favoritisme. Vous voyez? Elle a subi ça, parce que justement ses parents ne s'occupaient d'elle. Pardon? Oui, ne s'occupaient pas d'elle. Alors, vous connaissez bien l'autre histoire de ces enfants de Jacob, l'histoire de Joseph. Joseph était vendu en esclavage par ses frères. On va lire ça. Chapitre 37 et verset 28. Genèse chapitre 37 et verset 28. Au passage des marchands madianites, ils tirent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Et puis au verset 3 et 4, le même chapitre, verset 3 et 4, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Jacob avait créé ce problème. C'est dommage. Il avait un enfant chouchou. Il avait son préféré. Il lui a fait ce manteau multicouleur. Les autres avaient des tuniques uniques, couleur unique. Et l'autre avait ses trucs de luxe. Et c'était évident que son père préférait lui. Ça faisait mal aux autres. Ça vous fait pas mal quand vous êtes, c'est évident que quelqu'un ne vous aime pas. Ou que quelqu'un aime bien celui-là, mais ne vous aime pas à peine ou presque pas du tout en comparaison avec cette autre personne, n'est-ce pas? Donc, ça se ressent. Et donc, ça a créé la jalousie. Et la jalousie a dérapé pour devenir la haine. Et donc, cette haine a donné naissance à un crime. De vendre le frère en esclavage. Voyez? Donc, Jacob a commis ce péché de favoritisme, dont Jacques, plus tard, a dit, il ne faut pas du tout avoir de favoritisme. Ce favoritisme a provoqué, on va dire, la ruine de sa famille. Mais quand même, les enfants étaient coupables d'avoir vendu le frère. Les enfants étaient coupables d'avoir cette haine. Les enfants étaient coupables de permettre la jalousie dans le cœur. Chacun était responsable. Mais c'était quand même pas l'innocence de Jacob. D'accord? Donc, ce que je voudrais dire aujourd'hui aux parents et aux futurs parents, n'est-ce pas? Eh bien, soyez justes avec vos enfants. Vous allez traiter vos enfants avec une égalité. Faire l'effort. D'accord? Parce que, justement, on ne voudrait pas que la jalousie s'installe, la haine et la compétition et toutes les mauvaises choses qui pourraient se faire. D'accord? C'était court comme message. Mais c'est net comme sujet, hein? Mais on va quand même, on va pas terminer si tôt. Je voudrais simplement parler un petit peu de ce parcours de la vie de Jacob. Qu'est-ce qui lui a amené à être comme ça? Premièrement, comme vous avez déjà vu, il était jumeau, cadet. D'accord? Et la Bible nous dit que son nom signifie trompeur, supplanteur, tricheur, escroc. Ça, c'était Jacob. Jacob était un homme du monde. Il a hérité la déception, la tricherie d'Abraham et d'Isaac, son père et son grand-père. Il a hérité la polygamie d'Abraham. Il a hérité les préférences et le favoritisme de ses parents, hein, Rebecca et Isaac. Donc, il était un homme du monde. Il n'était pas un homme converti. Il s'est marié avec des païennes, hein, si vous lisez bien l'histoire. D'ailleurs, regardez dans Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31, verset 19. Pour voir comment était une de ces femmes, sa préférée, hein, il était toujours dans les préférences, n'est-ce pas? Genèse 31, 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père, ça c'est les dieux. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Donc sa femme a volé les dieux de la maison de son père, du beau-père de Jacob. Okay? Parce que quoi? Bah, parce qu'elle avait confiance dans les dieux, dans les idoles. Aussi, on peut regarder dans chapitre 35 et versets 1 à 5. Chapitre 35, Genèse 35, versets 1 à 5. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Esaü, ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. » Nous nous leverons et nous montrerons à Bethel, là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébin qui était près de Sichem. Donc, c'était les idolâtres. Toute sa famille était païenne. Jacob, Israël. C'est incroyable que, jusqu'en chapitre 35, il permette que sa famille soit des païennes. Plein de païennes et de païennes, les enfants aussi. Hein? Donc, ça ne doit pas nous étonner quand on voit la vie de ce qui se passe par la suite, de ses enfants et de ses descendants, qu'il y a beaucoup de pratiques mélangées. Ce ne sont pas les bons croyants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu les bons parents. Les bons parents. Ils n'ont pas donné de bons exemples. Ils ont permis le paganisme et les pratiques des païennes et tout ça. Il y avait un petit peu de bonne religion là-dedans, mélangée, mais c'était surtout ces autres choses. Et donc, en chapitre 35 à la fin, là, chapitre 35, donc, il commence à être plus sérieux. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre aussi? Donc, en dépit de tout cela, parce que Dieu avait promis à Abraham, et il avait promis à Isaac qu'il allait bénir cette lignée-là, Dieu a quand même béni Jacob. Il a quand même béni Jacob. Comme peut-être parmi nous, des fois, on a vu avant notre conversion que Dieu quand même a fait des choses dans notre vie. Il s'est quand même occupé de moi. Et il n'a pas permis que je fasse telle bêtise où j'aurais peut-être pu trouver la mort ou d'autres choses où j'aurais pu vraiment faire d'autres bêtises très graves. Hein? Mais de toute façon, il a pourvu pour des choses dans notre vie. N'est-ce pas? Bien qu'on n'était même pas encore son enfant. Alors Jacob, vous allez être étonné. Jacob, il s'est converti quand il avait plus de 60 ans. Je fais le calcul. On pense Jacob, il est parti à Padan Aram, il s'est marié et il était jeune homme. Ah ben non, non. Il est marqué dans chapitre 26. Donc là, 10 chapitres auparavant, hein. Son âge. Chapitre 26, verset 34. Ésaü, âgé de 40 ans. Moi, j'ai que 40, 7 ans, 48 ans, je ne me souviens plus. C'est difficile à calculer après le temps. Hein? Il avait 40 ans, il prit pour femme Judith, fille de Béréi, le Éthien, et Basmath, fille de Elon, le Éthien. Elle fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Il avait 40 ans. Alors, son frère avait quel âge?
Pareil.
Pareil. Le même âge. 40 ans, il n'était pas encore marié, hein? Alors, on va un peu plus loin. Chapitre 28, verset 6. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob. Hein, après cette histoire-là où il a triché contre son frère, il a volé les bénédictions, etc. Et qu'il avait envoyé à Padam Aram pour y prendre une femme. Donc, il n'est pas encore marié. Et en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, tu ne prendras pas une femme parmi les filles des Cananéens, des Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop immorales, etc., les païens, etc. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles des Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Ésaü, en allant vers... s'en alla vers Ismaël et prit pour femme, outre les autres qu'il avait déjà, hein, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nabojat. Donc voilà, il a trois femmes déjà. Et Jacob n'a même pas encore une. Donc il est parti. Et puis, pour raccourcir l'histoire, vous savez bien qu'il est arrivé là et il a vu cette belle femme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé 7 années pour avoir cette femme-là. Mais Laban, qui était aussi escroc que Jacob, qu'est-ce qu'il a dit? Fait, il lui a donné l'autre fille pour femme. Et puis il dit, écoute, après sa petite fête-là, je vous donne la seconde femme, mais il faut travailler encore 7 années. Donc il avait 40 ans, au moins 40 ans. Il a travaillé 7 ans. Donc 47 ans, il a travaillé encore 7 ans, ça fait combien? 54, et pour avoir un salaire, il a travaillé encore 7 ans, mais il a triché, donc il a fait 6 ans, et il est parti. Donc il a quel âge? 60 ans. Il a 60 ans quand il revient. Alors vous allez vous souvenir peut-être quand, chapitre 28, quand Isaac est parti, Jacob est parti, il avait prié à Dieu au verset 28, verset 20 et 21. Jacob fit un vœu. Donc c'est l'événement où il y a l'échelle et il y a les anges qui montent et descendent et tout ça. Et par la suite de ça, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, ce voyage à Padam Aram, hein, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. À ce moment-là, Dieu sera mon Dieu. Mais s'il ne s'occupe pas de moi comme moi je veux, je ne vais pas croire en lui. Donc quand il prie cette prière-là, à peu près 20 ans, il va partir pour les 20 ans qu'il est parti là, qu'on a déjà calculé, et il va revenir à ce même endroit. Et c'est à ce moment-là, 20 ans plus tard, qu'il va se convertir. C'est le gâchis. Abraham était béni par Dieu, Isaac était béni par Dieu, Jacob aurait pu avoir je le dis légèrement comme ça, une belle vie chrétienne. Mais non, il était un homme du monde. Voilà. Il attendait 60 ans pour se convertir. Il avait gâché tout ça. Gâché. Il s'est converti dans chapitre 32. Dans chapitre 32, verset 28, il dit encore, donc c'est cette situation maintenant où Jacob est en train de lutter avec l'ange du Seigneur. D'accord? Et donc, à la fin de cette lutte, donc il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Donc, vous imaginez, quand il a 60 ans, son aîné a à peu près 19 ans. D'accord? Et donc, tous les autres, parce qu'il y avait 4 femmes, alors les autres avaient 19 ans, 18 ans, 17 ans, 18 ans, etc. Hein? Parce qu'ils pouvaient avoir plusieurs enfants à la fois. Quand on a 4 femmes, on peut avoir beaucoup d'enfants en même temps. Et donc, ces jeunes-là, qui ont grandi dans des familles. Toi, quel âge, Philippe Amboise? 16 ans. OK? Et Eri, toi, quel âge? 19 ans. OK? Donc, quelqu'un de l'âge Eri, qui a vécu dans le paganisme pendant toutes ces années-là. Le père même était un homme du monde. Quelle influence dans leur vie? Vous voyez? Toute cette influence. Et après, ils vont partir, ils vont partir en Égypte. Et c'est vraiment, on va dire, miraculeux que Dieu s'est occupé de plus tard. Hein? Parce qu'il avait fait des promesses à Abraham, à Isaac et puis à Jacob aussi. Il a fait des promesses parce qu'il fallait que le Christ vienne plus tard dans l'histoire. Il avait choisi cette famille-là, mais c'était pas des bons croyants. Hein? Jacob n'était pas de bon exemple. Et pourtant, Dieu attendait quand même un bon témoignage de la part de chacun de ces enfants-là. Et Dieu donnait la loi à leur descendance, hein, en attendant qu'eux, ils vivent la vie que Dieu voulait de leur part. Ils étaient quand même rebelles, toujours rebelles. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu ces parents qui n'étaient pas des bons parents. Hein. Voilà. Donc, il a semé le vent pendant la jeunesse de ses enfants et il a récolté cela. Ce qui devrait nous dire à nous les parents de faire attention parce qu'on va récolter ce que nous sémons, n'est-ce pas? Et ça veut dire aussi aux enfants et aux jeunes, hein? Si vos parents n'ont pas été les meilleurs exemples, ça ne donne pas le droit à faire des bêtises. Vous n'avez pas le droit. Hein? Vous devriez vivre devant Dieu. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fait prospérer cette année. Amen. Oui, cette année qui commence demain.